Interview.
C'est Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, émission consacrée aux élections du conseil départemental. Et pour cela, aujourd'hui au studio, nous sommes avec le mouvement La Drôme en commun pour un déclic social et écologique. Et donc, autour de la table, nous avons à commencer par Guillaume Ruetsch. Bonjour.
Bonjour.
Ensuite, nous avons Monsieur Pierre Dalstein. Bonjour.
Bonjour.
Angéline Manca.
Bonjour.
Et Karine Poiré. Bonjour.
Bonjour.
Alors, tous les quatre, vous êtes engagés dans cette Drôme en commun. Et je vais quand même vous demander à chacun de vous présenter et puis de peut-être aussi donner ou de préciser votre engagement dans ce qui vous motive.
Donc, Pierre Dalstein, j'ai 56 ans. Je suis résident à la Motte-Chalancon. Je suis enseignant sur la cité scolaire du Diwa et sur le collège de Billebaronny. Je suis conseiller municipal à la Motte-Chalancon et sapeur-pompier volontaire. Mon engagement au niveau associatif est connu localement et j'étais motivé de repartir sur les élections départementales justement parce que nous avons un rassemblement historique à gauche et écologiste qui rallie 9 organisations politiques. Et c'est ce qui m'a motivé à défendre les valeurs de la gauche écologiste. J'ai déjà été candidat en 2015 dans une liste de rassemblement justement à gauche avec Philippe Levenberg puisque j'étais son remplaçant. Et j'ai déjà été candidat sur l'ancien canton de la Motte-Chalancon en 2011 sur les couleurs d'Europe Écologie Les Verts, parti auquel je suis adhérent.
Merci bien. Et nous pouvons passer peut-être à Madame Poiré.
Oui, bonjour. Donc c'est Karine Poiré, donc je suis suppléante d'Angéline Manca, d'hiver gauche, originaire de la Chapelle en Vercors, maman de 5 enfants. Je réside à Aubenasson, commune dont je suis maire depuis un an. Je suis également vice-présidente des maires ruraux. J'ai la ruralité chevillée à mon corps. Mon combat est l'égalité des territoires et nos services de proximité, nos services publics de proximité. De plus, j'ai été très investie dans le monde associatif, présidente de tennis club de Saillant, administratrice du comité Drôme Ardèche. Je suis également remplaçante de Martine Charmé. de Martine Charmé lors de sa dernière mandature qui s'est terminée récemment, donc partie en 2015 pour la Drôme en mouvement. Donc j'ai refusé, elle m'a demandé d'être remplaçante. J'ai refusé tout simplement parce qu'il y a eu ce rassemblement historique de la gauche et que mes convictions politiques, mon identité, c'est la gauche. Et pour moi, l'unité actuellement est primordiale. Primordiale face à la crise que nous traversons, la crise sanitaire. Quand nous entendons et nous voyons que nos concitoyens aspirent à plus de solidarité, d'humanité et de coopération, donc moi je dis oui à l'intérêt général de tous dans notre beau canton, le Diwa.
On peut passer aussi à Guillaume Ruetsch.
Oui, bonjour. Guillaume Ruetsch, j'ai 36 ans, j'habite à Die. Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis dans le Diwa. J'ai habité dans plein de petits villages différents avant d'atterrir définitivement à Die. J'ai été ces 9 dernières années garde sur la réserve naturelle du haut plateau du Vercors. Moi je suis très engagé depuis longtemps dans la protection de l'environnement. Ça fait une bonne quinzaine d'années, j'ai été bénévole dans plusieurs associations. J'ai un peu moins de temps depuis peu. Mais j'ai toujours la volonté d'essayer de faire bouger les choses, que l'environnement soit plus pris en compte dans les décisions des élus, parce qu'on entend souvent de grands et beaux discours, mais peu d'action dans les faits, en tout cas pas d'action suffisante. Et donc, ça fait pas très longtemps que je suis encarté chez Europe Écologie Les Verts. Ça fait un peu plus de 6 mois. Voilà.
Et puis, nous passons aussi à Angéline Manca.
Moi, c'est Angéline Manca. Je suis factrice à 10. J'ai 36 ans. J'ai 4 enfants. Je suis dans ce rassemblement parce que déjà, il est historique. Il y a beaucoup de... qu'il y a toutes les forces de gauche. Et ben, je suis engagée pour faire changer les choses, surtout je pense au service public, vu que je passe dans les petites communes et je vois qu'en fait il n'y a plus que le facteur qui est encore service public, mais bientôt ça va changer. Du coup, je pense qu'il faut être auprès des gens parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui les écoute. Hein. Ils ont plein de choses à dire. Et voilà.
Et puis, étant vous-même mère de plusieurs enfants, vous connaissez le quotidien et la vie au quotidien. Et donc, vous savez ce qu'il y aurait à remédier, je pense.
Bah, oui, il y a l'aide aux jeunes. Il y a plus quoi, l'aide dans la jeunesse. Là, les ados qui sont vivent tout seuls, même au Covid, ils n'ont pas de salle pour se rencontrer. Du coup, ça crée des tensions entre eux et on ne le voit pas spécialement. Et de la tristesse parce qu'ils n'ont pas d'activité.
Très bien. Eh bien, nous allons passer sur le programme, hein, en conséquence du conseil départemental. Globalement, les deux idées sont le social et l'écologie. Alors pour ça, par rapport aux compétences du département, quelles actions vous allez pouvoir mener ?
Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand avec la Drôme en commun... Nous avons décidé justement de nous réunir sur toutes les forces de gauche et écologistes. C'était justement qu'on avait constaté des urgences sociales et des urgences climatiques et que nous voulions construire la Drôme de demain, le Diois de demain, face aux enjeux d'aujourd'hui, face à ces urgences et justement avec la volonté d'assurer la transition écologique de nos territoires. Quand nous sommes réunis, nous avons décidé ensemble et nous avons établi un programme parce que nous avons aussi la ferme intention et l'objectif commun d'être une alternative à la politique actuelle du département. En effet, dans nos discussions, 9 organisations politiques avec des candidats dans tous les cantons pour offrir justement une alternative résolument à gauche à la majorité actuelle du département.
Par rapport justement à cette liste de 9 partis ou représentations, vous avez aussi, je pense, un panel très large de personnes en fonction de leur profession, de leur activité, qui permet aussi d'avoir une vision globale de ce qu'il y a à faire sur le Diois.
Non seulement une vision globale, un panel très large, des horizons différents, qui nous a permis aussi d'établir ensemble un programme commun, qui était établi, issu des nombreuses discussions que nous avons pu avoir, mais surtout également ce qu'on a appelé une charte de gouvernance pour pouvoir justement fonctionner tous ensemble. Quelque part, dans les 9 organisations, nous avons un fonds politique commun, des convictions communes. Mais sur certains points, nous avons peut-être aussi des différences pour résoudre le problème. Mais n'est-ce pas de la différence que nous nous enrichissons et qui permettent justement la vie démocratique ? C'est sur cette idée que nous avons mis ensemble ce programme avec les 10 priorités que nous avons priorisées, correspondant aux besoins et à côté, une façon de fonctionner ensemble. En effet, nous constatons aussi qu'il y a de plus en plus un désarroi de la part des électeurs, une défiance, et nous avons voulu associer à ces 10 priorités une façon de fonctionner pour justement enrichir le débat de ces différences et arriver à un consensus, à des décisions qui répondent à des besoins dans un intérêt général et dans l'optique de faire adhérer le plus grand nombre.
À l'heure actuelle, ce qui existe dans le Diois ne vous convient pas suffisamment ou il y a encore beaucoup de progrès à faire ?
À l'heure actuelle, si on regarde la dernière mandature sortant, pour tous les services, la compétence principale quand même du département, c'est les solidarités. Solidarité aux personnes, solidarité au territoire. Le rôle du Conseil général est quand même important d'accompagner et de soutenir toutes les initiatives, locales notamment, sur le territoire du Diois. Et si je prends par exemple dans le domaine des solidarités, nous apercevons chaque jour, quotidiennement, de grands besoins que nous pouvons avoir. Tout à l'heure, mes collègues, que ce soit Karine ou Angéline, maman de 5 enfants ou 4 enfants, soulignaient, par exemple pour la jeunesse, les besoins qu'il peut y avoir, la petite enfance, la disponibilité de tous les services sur la famille et la nécessité de renforcer tous ces services qui sont un besoin énorme sur le territoire. D'autres domaines comme l'accès à la santé, où nous constatons sur le territoire qu'il peut y avoir une sorte de désertification rurale des médecins ou des services de santé. Tous ces domaines qui rentrent dans la solidarité, ce sont des priorités pour nous que nous voulons renforcer et que nous allons défendre au niveau du département dans son juste rôle d'accompagnement et de soutenir pour que localement nous puissions répondre à tous ces besoins.
Justement, je reviens vers vous, maman, toutes les deux. Donc, vous avez l'existence au quotidien avec des enfants. Justement, quel est le cadre pour vous à améliorer ?
Je dirais que, de plus, je suis mère à Aubenasson. Et ce que je peux voir actuellement, c'est qu'il y a une demande de logement énorme en ce moment. Tout le monde veut habiter sur le canton du Diois. Je pense qu'il y a eu un changement de génération. Voilà, les jeunes veulent plus vivre ici par l'environnement. On a un environnement formidable, de l'espace, l'alimentation. et par contre, voilà, il manque des logements, il manque des places en crèche. Niveau santé, assez limite quand même. Voilà, il y a bientôt l'hôpital de Die, on ne sait pas où on va. Il y a un gros souci à ce niveau-là, quoi. Donc moi, c'est un petit peu mon alerte. Les ressources en eau aussi. On n'est pas assez suivis. On ne nous écoute pas. Le réseau aussi Orange. La poste qui ferme à Saillant. On parle de fermeture de poste. Enfin, tous ces problèmes sont assez inquiétants. Et je pense qu'il faut être plus derrière ces services publics.
D'ailleurs, le numérique, c'est une des compétences du département. On peut parler un peu de quelques services par rapport au 4G. Je ne sais pas quel est son rôle précis, mais pour vous, est-ce qu'il y a un remède à y opérer ?
Alors, dans les compétences, quand vous parlez du numérique, c'est un dossier d'actualité aujourd'hui. Quel est le rôle du département ? Le rôle du département peut intervenir en tant que cofinanceur dans le cadre de solidarité territoriale à permettre de développer le déploiement de toute la fibre optique. La fibre optique, pour nous, c'est aussi un avenir. C'est un peu ce qu'on appelle comme l'électrification rurale en son temps. Et c'est un réseau qui est amené demain à remplacer le réseau cuivre, mais surtout offrir tous les services de télémédecine, de télédistance, et permettre, on évoquait tout à l'heure le nombre d'installations dans le Diois que nous connaissons, le télétravail. Il est vrai aussi, appelons un chat un chat, qu'on aborde aussi tout le domaine des services. Alors, il y a les services publics. Si on prend le réseau cuivre, on a constaté ces dernières années, je dirais, la démission face à tous ces réseaux publics. Et il faut bien sûr amener que le développement du numérique, qui est une clé et qui est vitale pour nos territoires, soit réussi et l'égalité d'accès à tout le monde. Vous parlez de la couverture numérique. Sur le territoire, il y a des inégalités énormes, suivant le lieu où on habite dans le Diois, d'accès au numérique. Et ça fait partie de tous ces dossiers structurants, utiles au territoire, vital au territoire, et qui sont un service qu'on se doit. Il n'y a pas de territoire qui peuvent vivre, qui peuvent se développer sans un minimum de services qui sont quelque part et qui interviennent dans notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité. Liberté d'habiter et vivre sur un territoire, égalité, quel que soit le lieu où nous habitons sur le territoire, à disposer de tous les services, et fraternité, eh bien, la solidarité doit jouer aussi. Et si le département peut être amené, comme d'autres financeurs, États, Europe, région, il le fera. parce qu'ils rentrent dans cette philosophie d'offrir le même service quelques points du territoire national, dont le Diois notamment.
Je voulais revenir un petit peu sur le numérique. On a pu apprendre cette nouvelle la semaine dernière de ces services d'urgence qui étaient indisponibles dû à un bug informatique ou de réseau numérique. Mais aussi, là, par exemple, il y a encore des groupes de presse qui se sont retrouvés en panne aussi en France aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vraiment accorder toute confiance au numérique ? Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une possibilité d'une sauvegarde peut-être plus classique ?
Mais attendez, quand vous parlez accorder une confiance au numérique, moi je vais évoquer, et ce que je disais tout à l'heure, égalité et équité de tous par rapport à un territoire, sur la liberté d'habiter un territoire, peut-être que sur le numérique, et cette fameuse panne. Alors je suis sapeur-pompier à côté, effectivement, quand vous entendez le lendemain, Dieu merci, je n'ai pas eu d'intervention et je n'ai pas entendu qu'on en avait loupé. Mais quand vous attendez une panne comme ça, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'est-ce qu'il y a derrière réellement. Et je vais même plus loin. Je disais tout à l'heure que habiter un territoire, le droit d'un minimum de services pour organiser la vie, qu'est-ce qui s'est passé sur ce domaine du réseau téléphonique, du réseau des communications ? Même si le cuivre va être remplacé à terme au niveau possibilité technique par le numérique, c'est savoir comment on gère ça. Et moi, je suis désolé de vous le dire, mais quand on pense au service public, on voudrait nous faire croire que c'est un gros mot, que ça coûte ou autre, c'est la condition minimum et indispensable dans un souci d'équité qu'on n'a qu'à garder tous ces réseaux dans un giron communautaire. Et c'est ce giron communautaire qui assure le réseau, le déploiement de ce réseau et la qualité de ce réseau. On verra bien ce que nous dira, puisqu'il va y avoir commission d'enquête, si j'ai bien compris, que ce sera fait dans la transparence. J'aimerais bien connaître le fin mot, mais désolé, quand c'est géré par une entreprise privée qui n'est pas dans une optique de service au territoire, ce qui est quand même cette notion qui est importante, mais plutôt des services à sa gestion financière et ultralibérale, eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'on assiste à des bugs. J'aimerais bien connaître le fin mot de l'histoire. Mais je trouve particulièrement inadmissible qu'on en arrive à ces, je dirais pas ces incidents, ces événements graves. On croit qu'on a quand même, l'enquête le dira aussi, 5 personnes sont quand même décédées parce qu'ils n'ont pas pu avoir de secours. Que s'est-il réellement passé ? Est-ce que c'est un problème technique ? Est-ce que c'est... Si c'est un problème technique, ça veut dire que derrière, il y a eu une faille, que derrière, on n'a pas voulu mettre ce qu'il fallait et qu'on a admis, oui, ben, tout simplement, oui, il y a une panne. Et après, oui, ben, après, il y a 5 morts. Après, il y a des gens qui n'ont pas pu avoir accès aux soins, tout bêtement, parce que la technique n'a pas suivi. Et est-ce que la volonté que la technique suive était réellement là ?
Mais après, c'est vrai que la question que vous posez est importante, parce qu'il ne faut pas non plus que la numérisation de tous les services publics engendre la fermeture des services réels. Et ce n'est pas du tout notre volonté. Je crois que la fibre ou d'autres technologies doivent être des outils qui doivent être utiles, mais pas, ça ne doit pas être les seuls. Y a plein de gens qui n'ont pas Internet, il y a des gens qui n'en veulent pas. Maintenant, on est presque tous obligés d'avoir des smartphones, alors que ça coûte très très cher, et puis certains n'en veulent pas, et on ne peut pas forcer des gens à utiliser des outils comme ça. Et pour ça, les services publics doivent rester présents de manière concrète sur le territoire. Il faut qu'on puisse accéder à des gens, il faut qu'il y ait des centres médicaux. On ne va pas faire tout en télémédecine. Il faut qu'il y ait des services publics de poste, des impôts, etc. Et il faut qu'il y ait des gens pour nous recevoir quand on y va. Donc même si effectivement le département doit participer au développement de ces technologies, il ne faut pas que ce soit le seul axe de développement du territoire.
Actuellement, les collectivités locales opèrent avec des chiffres de l'INSEE qui datent de 2018, c'est-à-dire que cette période de Covid n'a pas encore été prise en compte dans les statistiques et les études économiques. Comment vous pouvez vous établir en fonction de ce qui se produit justement avec l'après-Covid et ces bouleversements qui ont été opérés sur le social, l'emploi ?
L'après-Covid, j'ai envie de dire que pour le moment, on n'en connaît pas encore toutes les conséquences. On n'est pas encore sorti de la crise. On est en pleine pandémie sanitaire, même si à l'heure d'aujourd'hui, il semblerait que ça aille un peu mieux. Mais derrière, toutes les conséquences ne sont pas encore là et toutes les conséquences induites. Il n'y a pas que des conséquences économiques, il y a des conséquences sociales, il y a des conséquences sur la santé, sur le relationnel. Toutes ces conséquences qu'on n'arrive pas à chiffrer, parce que ce n'est pas que l'économie, mais qui sont capitales et vitales pour des gens qui veulent aussi voir le côté humain des choses. Les leçons sur le Covid, elles seront énormes et il faudra les tirer. La tendance qui voudrait, une fois que c'est passé, on repart comme en 40 et on recommence comme si de rien n'était arrivé, serait dangereuse et serait ne pas voir la réalité en face. De nos jours, ces conséquences elles vont être nombreuses et on a un monde qui s'accélère de plus en plus, qui évolue tellement vite qu'il faut derrière réussir à essayer d'anticiper. Mais anticiper n'est pas toujours évidente, mais il faudra quand même se poser les conséquences parce que le Covid a révélé certaines réalités. Certaines réalités sur nos façons de vivre tous les jours, certaines réalités sur les habitudes d'un monde qui s'est emballé, d'un monde de consommation, de surconsommation, certaines habitudes aussi. Et toutes ces questions, il faudra bien en tirer les leçons si on veut justement pouvoir avancer et justement améliorer les choses. On peut voir déjà des conséquences. Quand on a vécu au mois de mars, avril, en plein confinement dur, et tout ce que ça impliquait sur les questions fondamentales de tous les jours qui étaient se nourrir, se restaurer, vivre, vous vivre chacun de façon isolée, puisque c'était confinement, eh bien, ça, ce sont des conséquences humaines, non négligeables, dont il faudra bien tirer les leçons.
Alors, effectivement, un secteur a été très mis à mal. Ce sont les écoliers, les collégiens. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en avez retenu de cet épisode ? Est-ce que, comme on pouvait le constater sur d'autres secteurs, ça a révélé aussi des manquements ou des carences dans ce que le département pourrait faire ?
Parler des collégiens, la première chose à se dire... Allez, une petite anecdote. Le premier jour, très vite, ils ont levé les bras au ciel en disant « Chouette, on est en vacances ». Ça n'a pas duré 24 heures. Je crois que pour eux, ça a été très difficile. Ça a été très difficile parce que tout ce qui sont les valeurs qu'amène l'école en général, qui est le vivre ensemble, eh ben, ce sont des valeurs qui ont été mises à mal. Pour des jeunes gens qui découvrent, qui sont des apprentis de la vie, apprenti citoyen, apprenti adulte, apprenti dans différents domaines qui créeront leur métier plus tard. Et donc, il n'est pas évident d'avoir les réponses. Je pense que ce sont des moments très durs pour eux. Le département, effectivement, la gestion des collèges est là. Puisque vous parlez des collèges, puisque nous sommes dans le DIWA, autant citer aussi ce que peut faire un département et sur, par exemple, la cité scolaire du DIWA. Savez-vous que sur la cité scolaire, je ne la prendrai à personne, c'est une cité scolaire qui est toujours là, ce sont des services de l'État, avec des compléments du département, quelque part l'un fixe et l'autre paye. Et regardez toutes ces options qui ont été mises, que ce soit l'option la spécialité sport nature, que ce soit la spécialité art du cirque. Alors je vais quand même rajouter celle que je pilote depuis l'année dernière, qui est l'école de jeunes sapeurs-pompiers du DIWA. Toutes ces spécialités avaient un but. C'était, par rapport à un petit bras de fer avec l'État, maintenir ces services. C'est ce qui a permis de sauver le lycée en créant ces spécialités, en permettant d'avoir un nombre d'élèves et en mettant un service sur place. Si le département derrière n'est pas présent. Ne serait-ce que quand vous mettez des spécialités, il faut bien les soutenir. Il faut bien les aider au niveau matériel, au niveau... Il faut bien négocier avec l'État, avec les rectorats, pour justement qu'on continue. Vous avez vu cette année, pour la petite anecdote, d'accord, je suis juge et parti, je vous l'accorde. Mais vous avez vu, pour la petite anecdote, la suppression d'une première qui était prévue. Et qu'est-ce qui a pu motiver tout ça ? C'est un, Le département, certes, était derrière, mais c'est aussi la mobilisation de toutes et tous du Diois. Quand je dis la mobilisation de toutes et tous, je parle de certains de mes collègues professeurs, des parents d'élèves, qui se sont unis et qui ont réussi à faire, permettez-moi de le dire, de plier la rectrice pour que la troisième première revienne. Mais derrière, que cette structure, le lycée, ne soit pas démantelée petit à petit. Donc vous voyez qu'il faut toujours accompagner, toujours être présent, et c'est une démarche très volontariste. Je dis même qu'il faudra rester vigilant et que répondre présent, et ça c'est capital, pour pouvoir maintenir ces structures. À titre d'exemple aussi, cette structure cité scolaire a un internat qui doit évoluer. Il faut augmenter le nombre de places, ce qui veut dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'on soit besoin de financer le nombre de places, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on a besoin d'internats, on a des gens qui veulent venir et des gens qui veulent vivre dans cette structure et se former. Donc, il faut répondre présent et être très vigilant. Voilà une action volontariste, très concrète, que le département doit soutenir.
Donc vous serez toujours à l'avant-poste pour défendre le collège du Diois.
Non seulement à l'avant-poste, partie prenante et convaincue.
Et puis on peut aussi aborder le vieillissement, le handicap. Il y a un secteur d'activité aussi à l'assistance à domicile, le logement aussi pour certaines personnes. Vous proposez quelles améliorations sur ce qui existe?
Le vieillissement, bon, on peut en parler. Parce que c'est quand même un dossier, qui est un sujet même, qui est crucial dans nos territoires. Et qu'on peut distinguer en deux étapes. La première étape, c'est déjà le maintien à domicile, quand on prend de l'âge, essayer de pouvoir rester à domicile le plus longtemps possible. Qu'est-ce que ça veut dire rester à domicile le plus longtemps possible? C'est qu'à un moment, on doit avoir besoin de services, d'aide à la personne. Renforcer justement... tout le dispositif d'aidant, par exemple, c'est-à-dire les gens qui, d'une famille, aident ces gens-là, leur rendre la tâche facilitée et possible, de façon à pouvoir encourager et maintenir le plus longtemps possible la personne à domicile. Après arrive, malheureusement, mais ça fait partie aussi de la vie et de la réalité, le moment où il faut aller en structure plus médicalisée, en EHPAD ou en maison de retraite. Là-dessus, beaucoup de choses sont à dire aussi. Déjà, nous, notre volonté, c'est que toutes ces structures, où le département intervient, où les gère, c'est que toutes ces structures aient une petite taille. Pourquoi petite taille? Petite taille, et puis, non seulement petite taille, mais aussi soit sous statut géré par le département ou associative, mais surtout à but non lucratif. Dans les familles, c'est quand même quelque chose qui peut être un gros sujet quand il s'agit de placer un membre de sa famille en maison, ne serait-ce que le coût. Et après, aussi, que ce soit des structures qui soient vivantes. Je vais même utiliser un terme choc, qui ne soit pas des mouroirs à petit feu. Quand je dis ça, c'est-à-dire où ces personnes puissent vivre. Et c'est même de la solidarité intergénérationnelle de nos aînés, où la fin de vie doit être la plus paisible, apaisée et possible. Quand on parle de maintien à domicile, on est aussi pour des dispositifs... Par exemple, d'intégrer dans du logement, qui est un autre levier sur le département, que le département peut agir, c'est-à-dire quand on crée du logement social ou quand on crée des programmes de logement, qu'on ait des logements adaptés à des personnes plus âgées pour justement qu'on ait une mixité intergénérationnelle. Toute cette notion, ben, ce sont des notions que nous estimons à taille humaine. Et c'est ce genre, c'est ces priorités, la taille humaine, que nous voulons valoriser. Et c'est une valeur auquel nous tenons.
Moi, je voulais parler sur le logement social. On en construit beaucoup. Ils en ont construit des neufs. Mais je pense qu'ils n'ont pas pensé d'abord aux rénovations des anciens. Et c'est, je pense que ça peut être important de faire bien attention qu'avant de construire... On peut les construire, il y en a besoin. Mais aussi rénover l'ancien pour que les gens y vivent mieux.
merci. Et j'ai peut-être sauté un passage intéressant quand même, c'est par rapport aux jeunes. Vous leur proposez aussi des accès, par exemple au permis de conduire. Toutes ces choses-là, vous pouvez nous les présenter peut-être.
Tout à fait. Et c'est pour ça que déjà, pas oublier une chose, le monde de demain, puisque nous sommes dans une volonté de construire la Drôme de demain, le Diois de demain, ben le monde de demain, ce sont eux aussi, ce sont les jeunes. Et c'est pour ça que nous voulons lancer un grand plan pour la jeunesse. Dans le grand plan pour la jeunesse, nous avons plusieurs mesures prioritaires, dont notamment nous voudrions expérimenter le revenu de solidarité pour les jeunes de 18 à 25 ans, qui est un cruel manque, ce constat que l'on fait, aussi dans le Diois, mais comme partout dans la Drôme, même en territoire national. Et nous voulons avoir une démarche volontariste d'expérimenter ce revenu de solidarité. La deuxième chose aussi, vous parlez de premier emploi. Vous parlez d'accès au premier emploi. Eh bien, pour certains, et notamment dans nos territoires, c'est proposer une aide financière au permis de conduire. Le permis de conduire est souvent un handicap d'accès au premier emploi. Ne serait-ce que pour pouvoir se rendre au travail. Ne serait-ce par rapport au coût que représente pour des familles un permis et qui peuvent être un élément bloquant d'accès au premier emploi. Mais avant d'accès au premier emploi, il y a aussi l'orientation, de soutenir l'orientation. On sait que ces dernières années, les services d'orientation de l'éducation nationale, et je salue tous mes collègues avec qui nous travaillons, ont été mis à mal, ont été soit transférés à la région, soit les services évoluent. Mais c'est quand même, je dirais, le premier endroit où, justement, on peut guider, orienter et amener les jeunes accès au premier emploi.
Et puis, il y a aussi, je vois, par rapport à l'alimentation au collège, zéro gaspillage, alimentation bio. On en vient donc à cette agriculture aussi biologique. Ça, c'est une exigence de votre programme, l'écologie.
Oui, effectivement. Oui, parce qu'on en parle beaucoup, et pas seulement dans la Drôme. La Drôme a été pendant longtemps le premier département bio de France en termes de surface. A priori, ce n'est plus le cas maintenant. Ce serait bien qu'ils le redeviennent. De toute manière, c'est l'avenir. On doit nécessairement y aller. On connaît les impacts de l'agriculture conventionnelle sur la biodiversité, mais aussi sur le climat ou sur la qualité de l'eau. On sait qu'il faut changer ça. Donc autant l'encourager tout de suite plutôt que de continuer à financer une agriculture qui peut être polluante ou qui peut être néfaste pour la santé des gens. Donc effectivement, il faut qu'on encourage ça. Le département peut y participer, notamment en protégeant déjà les terres agricoles, quelles qu'elles soient déjà en bio ou pas. Mais on a un gros problème d'urbanisation et d'artificialisation des terres agricoles partout en France, mais aussi dans la Drôme et notamment dans la vallée du Rhône. Dans le Diois, la question se pose un peu moins, quoique on voit Adi récemment que la question se pose par rapport à l'hôpital. Là encore, c'est des grands discours qu'on fait souvent au niveau national ou au niveau départemental aussi, mais où c'est acté maintenant qu'effectivement, il faut qu'on arrête de grignoter les terres agricoles. Pourtant, il y a encore des projets qui se font. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que le département puisse engager des procédures pour préserver les terres agricoles. Il y a des dispositifs qui existent. Je ne me rappelle plus du nom maintenant, mais ça existe. Et il faut encourager l'installation d'agriculteurs bio sur ces exploitations. Un des leviers qui peut servir à ça, c'est d'encourager la production locale de légumes, de fruits et légumes sur le territoire pour fournir tous les établissements publics qui dépendent du département. Les collèges, les EHPAD. Après, on peut même envisager d'autres structures qui ne dépendraient pas du département. Mais commencer par ça, ce serait une super bonne chose. On voit qu'il y a de plus en plus de cantines scolaires qui utilisent de plus en plus de produits bio et locaux. C'est très bien. Mais ça dépend encore trop souvent d'initiatives individuelles, soit du cuisinier, soit du directeur des établissements. Et il faut que ce soit encouragé par les pouvoirs publics et par le département pour les établissements qu'ils concernent.
Et j'ai envie de dire, dans le domaine de l'agriculture, voilà un des sujets, un des enjeux pour nos territoires de demain. Pourquoi enjeu ? Alors Guillaume expliquait effectivement déjà produire et comment on peut, dans le cadre de circuits courts, justement profiter de tous les leviers du département qui gère les cantines, qui gère les EHPAD, c'est-à-dire aller directement du producteur au consommateur. Mais aussi un sujet qui dit finalement, et ce que nous avons appelé « manger sainement », tout en soutenant nos agriculteurs et nos agriculteurs. Et c'est justement quand on voit que ça veut dire qu'il y a le maintien d'une agriculteur paysanne qui se traduit justement en plusieurs enjeux à venir. L'installation de nouveaux agriculteurs, effectivement. La transmission des outils existants. On sait que dans les 5 à 10 ans à venir, un nombre important d'outils, de fermes seront à transmettre. En même temps, des reconversions, parce qu'on sait aussi que le problème de la ressource en eau face aux urgences climatiques est criant et qu'il va donc falloir avoir une agriculture soit encouragée vers des productions qui demandent moins d'eau, des productions aussi qui permettent de vivre de sa terre, de vivre de son exploitation, parce qu'on sait aussi qu'on est dans un système où on a des outils qui deviennent ou qui cherchent à être plus grands face à une agriculture intensive et qui, quelque part, appartiennent plus aux banquiers qu'à la personne et où dégager et pouvoir vivre un revenu n'est pas toujours aidé. Et enfin, la recherche de foncier. Effectivement, comme le précisait à juste titre Guillaume, préserver toutes ces terres qui a d'autres conséquences sur de l'urbanisation, sur du développement. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe où. Et vous voyez que sur ce sujet, qui est un sujet à plusieurs tiroirs, vous en ouvrez un, il y en a 4 autres, et il faut y amener des réponses. Et c'est cette méthode et cette façon de voir les choses que nous privilégions. Parce que les sujets, tels que l'agriculture, sont de plus en plus complexes et qu'il va falloir y répondre. Et ce sont les enjeux de demain.
Je revenais à l'eau, justement. Vous l'avez abordé aussi un petit peu, la qualité de l'eau. Quelles sont les possibilités que vous allez mettre en avant, peut-être pour justement gérer cette probable pénurie à venir, surtout en période d'été? Est-ce que vous voudriez amener une politique plus forte sur cette gestion de l'eau?
Gérer l'eau, ça veut voir sur plusieurs domaines. De façon générale, tout le monde a besoin d'eau pour vivre. Que ce soit pour pouvoir vivre tous les jours, se désaltérer, que ce soit pour produire sa nourriture, ses cultures, que ce soit l'eau source de vie. Effectivement, on constate de plus en plus, et puis quelque chose que nous avons vu cette année, qui pose question quand même. La Drôme, au mois de mars, ne coulait plus jusque dans la rivière le Rhône. Des choses qu'on n'avait jamais vues. Ce qui est quand même criant, ce qui veut dire que il y a de sérieuses questions à se poser et qu'il faut la gérer. Alors, ce n'est pas la peine, et c'est ce que nous disons non plus, nous ne sommes pas des oiseaux de malheur en faisant de l'écologie punitive ou alors en agitant le chiffon rouge et en faisant peur à tout le monde. C'est plutôt se dire, voilà, le problème, il est là. À venir, il faut quand même qu'on s'en préoccupe. Et c'est un sujet qui aborde plein de domaines. La première chose qu'on peut dire, souvent, il y a dans les communes, accompagner les communes qui sont en train, dans les démarches qualité avec les agences de l'eau. Et je vois que Madame le maire de Bonasson est bien placée. N'importe quel maire du territoire a les yeux rivés dans ces dossiers. Et les travaux à faire, d'améliorer la qualité pour avoir des réseaux qui ne fuient pas, qui ne gaspillent pas. Pour avoir aussi une démarche générale noble, un simple bon sens. On utilise de l'eau, on la prend quelque part dans le cycle de l'eau, il faut la rendre en milieu naturel de bonne qualité. Pas jouer l'égoïste qui la prend, je m'en fiche, on verra plus bas ce qui se passe, je la salis, je la mets, je passe au voisin. Là aussi, c'est un exemple de solidarité, de prise de conscience de chacun. Et c'est là que la puissance publique et le département, entre autres, avec effectivement des programmes de l'Agence de l'eau ou dans des démarches qualité, même si ce n'est pas évident tous les jours et ça demande de nombreuses gymnastiques à boucler un budget, mais il faut répondre présent. Sur l'agriculture, sur la gestion des rivières, Eh bien, gérer une rivière sur les prises d'eau ou autre. L'agriculture, ça voudra dire certainement aussi qu'il faut s'orienter vers des cultures moins, qui demandent moins d'eau. Alors, c'est facile à dire, mais dans les esprits, tout ça, ça doit s'accompagner. Quand on parle de se convertir, d'évoluer, il faut pouvoir accompagner, parce que c'est des états d'esprit. Et puis, savoir où aller. Là aussi, la puissance publique, la puissance communautaire, et là, justement, l'intelligence collective doit être mise au service de toutes ces transformations écologiques. Transition écologique, nous avions dit, en voilà un bel exemple.
Je revenais donc sur justement cette gestion de l'eau. Vous parliez de modifier peut-être le mode d'exploitation agricole. Il n'y a pas de mystère pour un agriculteur. De toute manière, tant que c'est rentable pour lui, il serait prêt à travailler n'importe quelle matière. Qu'est-ce que vous pourriez proposer justement comme type de culture à la place de celles qui sont très hydrophiles ?
Mais il y a la permaculture.
Par exemple. Je ne sais pas si on peut adapter la permaculture à ce type d'agriculture intensive.
Alors si, ça existe. Il y a des précurseurs qui le font. Même pour les grandes cultures, ça peut se faire. Il y a des nouvelles techniques maintenant qui s'appellent le semi-direct sous couvert, par lesquelles on ne laboure plus la terre. On fauche, on met un engrais vert en hiver ou en période d'interculture, qu'on fauche au moment où c'est jugé opportun par l'agriculteur, et il sème directement là-dessus. Il broie les engrais verts, et c'est des cultures qui nécessitent du coup déjà moins de pesticides, qui ont des rendements tout aussi efficaces qu'en agriculture conventionnelle, et qui nécessitent moins d'eau, parce que le sol est couvert en permanence, les plantes sont protégées, et voilà. C'est des techniques qui existent même pour des grandes cultures.
On arrive vers la fin. Je voudrais aborder aussi une chose importante concernant le social. Ce sont les vies associatives, la culture, le sport et l'éducation populaire. Tous ces secteurs-là ont été fortement frappés par ces confinements, ces distanciations sanitaires. Ça a été révélé, je pense, au niveau local aussi, particulièrement. Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire pour remédier à ces situations ?
Le fondement, c'est se dire que la vie associative, être engagé, être bénévole dans une association, c'est le fondement de notre société. Chaque individu, chaque personne a envie de s'exprimer, a envie de donner son temps, a envie de participer à une action collective, simple, sans esprit vénal ou sans esprit financier. Pas de vie associative, pas de vie sur le territoire. Nous en sommes convaincus. On peut réciter plein d'exemples où la vie associative a permis de développer ou de faire vivre tout simplement un village. Donc la vie associative, c'est un fondement, c'est une base, et ça doit être encouragé, soutenu, aidé. Que ce soit aussi bien dans la culture, dans le sport ou dans l'éducation populaire. Ça fait partie des biens essentiels. Ça fait partie du patrimoine de l'humanité et du vivre ensemble.
Justement, Madame Karine Poiré, vous étant maire de Aubenasson, vous connaissez un peu le tissu social du village. Est-ce qu'il a été mis à mal, justement, avec ces périodes de confinement ?
Oui, alors le village, oui, c'est surtout mes viticulteurs. J'ai des viticulteurs donc, qui ont été mis à mal donc, suite au Covid. Forcément, la Clairette, c'est un vin festif. Donc, pas de rassemblement, pas de fête. Donc, forcément, et donc, là, au niveau financier, je crois qu'ils ont eu une perte de moins 40%. Ensuite, ils ont subi le gel. Voilà. Donc, du coup, on les a écoutés. On essaye. Donc, ils ont été indemnisés par la préfecture, heureusement. J'ai eu une discussion avec eux. Certains d'entre eux essayent de se reconvertir, parce qu'il y a le changement climatique aussi, dans les plantes aromatiques bio. voilà, comme ils disent, ben voilà, Karine, oui, on veut faire du bio, mais on ne nous encourage pas. Voilà, le problème, il est là. Donc j'espère beaucoup qu'ils vont s'en sortir et que le département sera là pour les soutenir prochainement.
Et puis Angéline, vous ici étant mère, les activités pour les jeunes, vous y trouvez beaucoup de carences. Et qu'est-ce que vous souhaiteriez pour le DIWA ?
Pour les associations, alors moi je pense qu'il faut qu'ils aient plus d'aide.
Pour les jeunes aussi.
Les jeunes aussi. Et bien du coup, il faut des associations pour aider les jeunes, pour les faire sortir de chez eux, les faire sortir de leur ordi parce qu'ils sont bloqués devant les écrans, même si nous, parents, surveillent, et ben s'il n'y a pas de motivation derrière, ils restent dessus. Alors l'espace jeune, c'est très bien à dire, mais il faut le soutenir parce que c'est pas ouvert tout le temps, c'est déjà très bien comme c'est ouvert, mais il manque de subventions. Et après, tous les clubs sportifs les fait sortir en faisant des manifestations, des rencontres sportives, et ils adorent ça. Et là, je pense qu'ils ont été tristes pendant le Covid. Il n'y avait plus rien. D'ailleurs, dès que ça a repris, c'était bien. Ils étaient contents de jouer ensemble au foot, au basket. Et franchement, il faut les soutenir.
Pour cette campagne, il y aura des réunions publiques prévues. Ça se passera encore. Ça a commencé hier. C'était à Luc-en-Diois, à la salle des Vaucances. Et puis, donc, vous avez une date ce soir. C'était... Ça sera non, puisque ce vous ce êtes soir. Oui mais vous êtes diffusé demain donc mardi et mercredi vous avez déjà fait aussi des réunions publiques à la salle de la locomotive à Châtillon-Diois et à la Moitié Chalancon en salle polyvalente, et ce soir lundi 14 juin comme le mercredi 16 juin il y aura aussi des réunions publiques à Saillant et à Die. D'ailleurs tous ces renseignements on peut les trouver sur un site internet.
Le site internet c'est ladromeencommun.fr.
Eh bien, je vous remercie en tout cas, Angéline Manca, Pierre Wallstein, Karine Poiré et Guillaume Ruetsch d'être venus nous parler pour la Drôme en commun, pour un déclic social et écologique. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.
Merci à vous.
Merci à vous.
Interview. Ok, d'abord.